Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Votre émission, Histoire d'en savoir plus, vous est présentée aujourd'hui par Catherine Fox, avec à la technique, Claude Gazal et Paolo Davi. Notre invité de ce jour est à la fois un musée, que vous connaissez peut-être pas, mais qui gagne à être connu, et qui nous sera présenté par la guide conférencière attachée à ce musée. C'est un petit musée caché au centre de Paris, et je vous invite vraiment à aller le voir. Nous allons donc en parler avec Béatrice Lubin, et nous allons poser tout de suite à Béatrice Lubin après lui avoir souhaité la bienvenue dans notre émission. Bonjour Béatrice Lubin.
Bonjour Catherine Fox.
Nous allons donc poser la première question. Ce musée est caché au centre de Paris, près de l'Odéon, qui n'a pas de longue queue avec longue réservation coûteuse à l'avance. Et pourtant, il a un grand intérêt à la fois du contenu, dans son contenu, et du point de vue architectural. Ce que je comprends, est rattaché à la faculté de médecine de Paris. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, nous dire quand est-ce que ce musée a été créé, par qui et dans quel but?
Alors, le musée, en tant que tel, a été créé dès la construction du bâtiment en 1775 par Jacques Gondoin, mais il n'était pas ouvert au public, il était réservé aux étudiants. Ça n'est qu'en 1950, à peu près 50-54, que le musée a été ouvert au public. Il s'agissait d'y conserver les instruments de chirurgie, essentiellement, pour aider à la pédagogie des cours pour la formation des chirurgiens.
Donc, en fait, ces chirurgiens n'avaient pas d'autres cours. Ils étaient lâchés à eux-mêmes. Comment ça se passait? Donc, ils avaient besoin d'être éduqués comment, de façon visuelle par les objets qui se trouvent au musée.
C'est-à-dire que la faculté, le collège de chirurgie très exactement, qui est construit donc en 1775 par Jacques Gondoin, c'est une salle de dissection qui se trouve derrière le portique et le fronton. Et donc c'est la dissection des corps qui enseigne l'anatomie et la chirurgie. Et les instruments sont là pour dire voilà comment on pratiquait dans les temps anciens, en sachant que comparer un instrument du XVIIe, voire même du XVe siècle à un instrument du XXe est strictement le même, sauf que ce sont les métaux qui vont changer, parce que les techniques, elles, sont, quand on parle d'amputation, puisque c'est souvent de cela dont il s'agit, sont toujours les mêmes.
Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous m'avez dit, pendant la Révolution, que s'est-il passé?
Alors, la Révolution va fermer absolument toutes les facultés, parce qu'elles sont royales. Donc, il va y avoir un arrêt de la formation et de l'éducation des médecins. Il faut imaginer donc que pendant plus de 5-6 ans, il n'y a pas de formation de médecins. Donc, quand Napoléon Ier reprend les rênes de l'État, il réouvre les facultés et il doit former rapidement des médecins. Et cette formation va se faire sur le modèle de l'armée. On va donc créer des officiers de santé et non pas des médecins, de première catégorie ou de deuxième catégorie, ce qui pourra équivaloir aux généralistes et aux spécialistes. Et comme ils sont soldats, ou du moins sur le principe de l'armée, ils sont nommés. Et donc ainsi, ils sont nommés dans chaque village de France. Il n'y aura donc pas de déserts médicaux, au moins en théorie.
Oui, parce que quand même, il y avait beaucoup de villages en France, et on a quelques peines à imaginer qu'il y avait autant de médecins pour pouvoir les envoyer dans chaque village.
On est d'accord, mais le problème du désert médical existait, puisque dès Louis XVI et de par l'étude qu'il avait commandée, démontrait qu'il y avait un gros problème de déserts médicaux, ce qui, à mon avis, peut interpeller vos auditeurs.
J'imagine. Rien de nouveau sous le soleil, si on comprend.
Exactement.
Donc, vous parliez donc d'objets, donc il y a des objets très anciens, et cela va donc de l'Antiquité jusqu'à une partie du XXe siècle.
Exactement, puisque la constitution de nos collections s'est faite au-delà des instruments anciens qui ont été récoltés courant du 18e et du 19e, elle se repose sur beaucoup de dons de professeurs de la faculté qui ont donné à la faculté leur propre collection. Et parmi ces collections, nous avons des instruments antiques, puisque nous avons de très beaux objets datant de l'Égypte antique.
Alors, nous allons revenir là-dessus parce que je crois que par ailleurs, dans une vie parallèle, vous connaissez bien toute l'antiquité égyptienne, donc nous reviendrons sur ce point.
Il faudra me couper.
D'accord, je sais que c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Et j'allais vous demander peut-être dans un premier temps nous allons aller de l'extérieur vers l'intérieur, donc parlons peut-être de l'apparence extérieure et de ce musée. Pouvez-vous nous la décrire?
Alors, quand vous arrivez au 12 rue de l'école de médecine, il faut faire un peu attention à la façade sur rue, parce que c'est une grille banale, mais levez le regard et vous verrez une frise. Frise qui a été évidemment un petit peu abîmée au moment de la Révolution, puisque la silhouette de Louis XVI a été piochée. Et puis dans la cour, dans le fond de la cour, vous allez voir un très beau portique surmonté d'un très beau fronton, qui est en fin de compte la façade de la salle de dissection du grand amphithéâtre. Ça, c'est le cœur du bâtiment 18e siècle. Et puis, tout autour, façade Saint-Germain, comme les façades adjacentes, datent, elles, du 19e siècle, puisque c'est en 1860-1870 qu'il a fallu élargir le bâtiment. Et le musée se trouve dans le bâtiment 19e siècle. À l'origine, la salle qui est aujourd'hui le musée devait être une salle de la bibliothèque, ce qui explique cette grande salle en longueur avec cette mezzanine qui court de chaque côté et des vitrines très plates, puisque à l'origine, ce n'était pas des vitrines, mais des rayonnages pour des livres.
Donc, on a une architecture extérieure qui est 18e avec la coupole que l'on voit.
Alors, la coupole, il faut la voir le jour de l'ouverture, la fameuse journée du patrimoine qui se trouve en septembre, parce que parfois on peut rentrer dans le grand amphi et on voit la très belle demi-coupole, puisque c'est une demi-coupole.
D'accord, merci. Donc, voilà pour l'architecture extérieure avec un début de vision de l'architecture intérieure. Je vais peut-être commencer d'une façon qui va paraître un peu, non point négative, mais restrictive, dans le sens, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans ce musée.
Oui, on ne trouve pas de livres, puisque les livres sont fragiles. Il ne faut pas qu'ils soient trop longtemps exposés à la lumière, comme beaucoup de vos auditeurs doivent peut-être s'en douter. En revanche, nous sommes adossés à la bibliothèque, qui est une des plus grandes bibliothèques médicales, il faut le savoir, et qui a un fonds ancien très riche, puisque récemment, on y a redécouvert un atlas anatomique du XVIIe siècle.
Très bien. Donc, les deux, d'un côté, le musée de la médecine et de l'autre côté, la bibliothèque, sont toutes les deux rattachées à la faculté de médecine de Paris.
Exact.
Et donc, sont mitoyennes, mais séparées, si on peut dire, du point de vue organisationnel.
Et du point de vue du visiteur, quand on visite le musée, on ne peut pas rentrer dans la bibliothèque parce qu'essentiellement, ce sont les étudiants de médecine qui ont accès.
Donc, la question maintenant, c'est parlons un petit peu donc de ce que l'on trouve dans votre musée. Pouvez-vous nous promener peut-être dans la partie, c'est disposé je crois par chronologie et avec des thèmes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser le tableau et ensuite nous rentrerons dans le détail?
Alors, quand vous rentrez dans cette salle qui est un grand rectangle, sur le côté gauche, de toute manière c'est chronologique, donc on commence avec les instruments de l'Antiquité, on fait le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIe siècle, l'époque napoléonienne, et au fond quand on arrive au fond, on aborde les vitrines thématiques qui commencent en 1850 et qui finissent en 1920. C'est-à-dire que de l'autre côté, on est essentiellement, donc du côté droit, essentiellement deuxième moitié du 19e siècle et sur la mezzanine, on aborde le début du 20e siècle.
Donc vous arrêtez en gros, je dirais, dans les années 20-30, par là.
Voilà. Voilà,
Il n'y a
exactement.
pas, il n'y a pas d'instrument moderne de chirurgie tout
Aucun.
brillant en inox. D'accord. Enfin, je veux
Absolument
dire.
pas.
D'accord. Ça sera peut-être quelque chose qui se passera par la suite, mais pour l'instant, ça n'est pas visible là pour l'instant.
Il nous
Donc,
faudrait peut-être un peu plus de place.
on peut comprendre. Bien. Alors, je proposerais que l'on commence peut-être par la chronologie. Vous voulez bien nous commencer, alors, peut-être avec votre thème de prédilection qui est l'Égypte, bien que je crois que vous avez des choses qui ne sont pas qu'égyptiennes. Vous avez quelques instruments plus anciens, ou est-ce que je me trompe?
Alors, on commence avec un très beau panel d'objets égyptiens. On a des objets grecs, puisqu'il faut évidemment évoquer la médecine grecque. On ne pourrait pas faire un musée historique de la médecine sans la Grèce. Et puis après, on passe à la Gaule romaine et au Moyen Âge. Donc voilà le point de départ de nos collections.
Alors, peut-être avant un morceau de musique que vous avez choisi, pouvez-vous nous parler peut-être à ce moment-là de tout le monde a entendu parler récemment du serment d'Hippocrate. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez du côté médecine antique grecque? Et après le morceau de musique, nous parlerons de l'Égypte.
Alors, pour les objets concernant la Grèce, nous avons une très belle coupe en figure rouge où nous avons des yeux qui justement permettent d'évoquer la chirurgie oculaire, mais qui est beaucoup plus détaillée avec les objets égyptiens qui précèdent évidemment et que je détaillerai certainement après la pause musicale.
Voulez-vous dire qu'on opérait déjà de la cataracte?
Absolument. Nous avons un papyrus égyptien, Ebers, qui détaille justement l'opération de la cataracte, où il s'agissait d'inciser le cristallin, de le repousser pour récupérer une vue qui n'est certainement pas parfaite, mais qui permettait une autonomie aux Égyptiens sans dépendre de quelqu'un.
Très bien. Alors maintenant, Béatrice Lubin, vous nous avez réservé un morceau de musique. Pouvez-vous nous le présenter?
Alors, il est certainement atypique par rapport au sujet, mais il s'agit d'un morceau de David Bowie, un morceau musical, même si à la fin il y a des paroles, mais qui peut peut-être permettre d'avoir une respiration dans cet univers de chirurgie.
Très bien. Nous allons donc l'écouter. Merci beaucoup. Didn't know what time it was. The lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll. Let us hold it there. And the loud sound, it seemed to bite. Came back like a slow voice on a wave of bass. That were no DJ, that was bass. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he's so wild mind. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, but he knows it's always what he's hoping. Let the children do that. Let the children do that. Let all the children do that. Merci Béatrice Lubin pour cette musique inattendue et originale. Et nous allons continuer dans une certaine originalité, car je pense que notre siècle est toujours persuadé d'être à la pointe de la modernité et a parfois du mal à penser qu'on puisse aller plus loin. Et pour reprendre Estes Lacan, qui disait que nous ne sommes que des nains installés sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Donc, ce musée d'histoire de la médecine va peut-être nous orienter dans ce sens-là. Vous nous aviez mené jusqu'à cette interruption agréable musicale. Nous en étions à la médecine égyptienne. La médecine, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus et aller un peu plus loin sur ce thème, puisque c'est un thème que vous connaissez bien de par vos études par ailleurs en histoire de l'art égyptien.
Alors, pour asseoir mon commentaire, j'évoque volontiers un papyrus qui se trouve à Leipzig, qui est le papyrus Ebers, qui fait 20 mètres de long et qui décrit toutes les pathologies, y compris, en effet, la chirurgie de la cataracte. On y trouve toutes les descriptions de maladies de peau, de maladies oculaires, et qui montrent qu'il y avait un grand sens de l'observation, de la notation, et la volonté, justement, de soulager toutes les douleurs et surtout de rendre un tant soit peu l'autonomie des individus pour qu'ils puissent justement rester autonomes dans leur activité de chaque jour. On a donc des scalpels, après on a des rasoirs et des pinces à épiler pour l'hygiène, puisqu'il s'agissait d'être rasé de la tête aux pieds pour éviter les parasites. Et puis nous avons aussi un scalpel qui permettait la momification, puisqu'il s'agissait d'ouvrir en dessous des côtes flottantes une petite ouverture pour tirer tous les viscères, les mettre dans des vases canopes et après mettre le corps dans du natron pour qu'il puisse être dessiqué et momifié et ensuite entamer son voyage vers l'éternité.
Le natron, c'était du sel ou est-ce que c'était une variation
Alors,
particulière?
vulgairement, on va dire du gros sel, puisque tout le monde comprendra qu'en mettant dans un corps ou quelque chose dans du gros sel, l'humidité est absorbée et la peau et les muscles vont en fin de compte se solidifier. Après, on bandelette, on fait de la réparation cosmétique, je dirais.
Alors, le corps, si je puis dire, des embaumeurs était-il différent du corps des médecins à
Absolument,
l'époque égyptienne? D'accord.
absolument. Il n'y a absolument aucun lien, il n'y a aucune recherche anatomique, il faut bien comprendre ça, hein. Il n'y a strictement aucune recherche anatomique de la part des Égyptiens quand il s'agit de toucher au corps, il ne faut absolument pas l'abîmer pour sa vie éternelle.
Et donc, ce que vous avez au musée de la médecine, ce sont des instruments qui appartiennent à quel corps? À celui des embaumeurs ou
Ah non, essentiellement aux médecins. Toute la série de petits objets. Alors, les rasoirs et les pinces à épiler, c'est pour l'hygiène, mais ça correspond à toutes les catégories de personnes qui vivent dans le temple. Et puis on a les lancettes qui permettent une chirurgie, qui permet ou d'ouvrir une plaie ou justement l'opération de la cataracte.
D'accord. Alors nous allons peut-être quitter à regret les Égyptiens. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que la chirurgie oculaire va traverser les âges sans perte de savoir. Et on va retrouver ces mêmes outils, plus ou moins, avec la Gaule romaine. Et on les retrouvera même jusqu'en 1850, puisqu'on retrouvera exactement les mêmes instruments dans d'autres métaux avec les mêmes usages. Ça peut être un fil rouge dans nos collections.
Très bien. Donc, nous allons passer de l'Égypte ancienne. Est-ce que nous passons au Moyen Âge, peut-être?
Très volontiers, parce que c'est une période qui regroupe, qui représente 1000 ans, si vraiment on veut, je dirais en gros. Donc il faudrait dire les Moyen-Âge et non pas le Moyen-Âge, en sachant que sur cette période, il y a un point de bascule qui est la peste de 1348 quand on parle de la France. Avant cela, nous avons des études, une hygiène corporelle, des femmes médecins de plein droit, puisqu'elles payent la taille, qui équivaut à la taxe professionnelle. Au-delà de la médecine, on sait qu'elles ont une certaine autonomie législative lorsqu'il s'agit d'hériter des terres ou des titres. Donc, on a un Moyen-Âge, si on est connaisseur de Régine Pernoud, qui est très très loin du Dark Age du Moyen-Âge que l'on aime à citer comme un âge barbare. Après 1348, là oui, on va retrouver une certaine régression dans les usages, puisque l'eau va apparaître comme dangereuse parce qu'elle ouvre les pores de la peau et elle peut laisser rentrer les microbes. Donc ça va être le bannissement du bain et du nettoyage à l'eau. On va passer à ce moment-là à un nettoyage dit à sec, c'est-à-dire à l'esprit de vin. On ne va plus se dénuder, on va se frotter avec ce qui équivaut à du vinaigre. Hein. Et Louis XIV le pratiquera et encore après lui. Donc on va avoir ce basculement à cause de l'épidémie. C'est aussi à cette occasion que les femmes n'auront plus le droit d'exercer la médecine, qu'elles n'auront plus le droit d'être médecin. Il faudra attendre 1875, Madeleine Bresse, pour retrouver une femme diplômée de médecine à Paris, en France.
Oui, donc ça n'a pas grand-chose à faire, on va dire, avec l'histoire de la médecine, mais plutôt une histoire sociologique, politique.
Oui, on peut, oui, avec en filigrane la médecine.
Alors, qu'est-ce que vous avez des instruments de ces époques médiévales au pluriel?
Tout à fait. Alors, parmi ceux qui effraient toujours notre public, ce sont les couteaux à amputer, les scies à amputer et les fers à cautériser. Puisque n'oublions pas que pendant ce fameux Moyen-Âge français, nous avons droit à la guerre de 100 ans et qu'elle a duré en effet 100 ans et que beaucoup de soldats blessés se sont fait amputer et pour stopper l'hémorragie, on n'avait rien trouvé de mieux que de cautériser, c'est-à-dire de brûler au troisième degré les chairs pour faire une croûte et arrêter le saignement. Évidemment, le membre qui n'existait plus sera remplacé par des prothèses tout à fait rudimentaires. On en présente une dans nos vitrines. Il s'agit tout simplement d'un gantelet d'armure qui reproduit vaguement humain et qui permet même pas de prendre quoi que ce soit, mais qui est là pour remplacer le membre manquant.
Très bien. Donc... est-ce que Ambroise Paré, c'est plutôt la Renaissance, c'est un petit peu plus tard?
Tout à fait, mais il s'agit toujours d'histoire de guerre, puisque ce sont les guerres d'Italie. Ambroise Paré est un chirurgien, donc robe courte, qui n'a pas été à la faculté de médecine, qui ne parle pas latin, et qui va procéder à la première ligature des artères, c'est-à-dire qu'il ne peut pas cautériser, parce qu'il ne peut pas chauffer à blanc ses fers, et il va nouer un crin de cheval autour de l'artère, du gros tube qui pisse le sang, comme j'ai l'habitude de le dire à mon public, généralement ça les effraie, et il va arrêter le saignement de cette manière-là, il va par précaution le faire deux fois, et il mettra un pansement sur la plaie avec du miel et de l'eau de rose. L'eau de rose étant un anti-inflammatoire léger, et le miel étant hermétique, empêche en fin de compte l'air de pénétrer la plaie et donc le développement des infections.
Donc c'est, on peut dire, une amélioration dans la technique chirurgicale.
Absolument, tout à fait. Malheureusement pour les amputés, comme c'est un chirurgien qui a fait cette découverte, elle ne sera pas prise en compte par la faculté et il faudra attendre au moins la fin du 19e siècle pour qu'on abandonne la cautérisation au moins sur les amputations.
C'est intéressant et je ne dirai rien de plus.
Il y a toujours, mieux pas.
Il y a toujours des parallèles,
voilà,
à faire.
Voilà.
Alors, nous allons peut-être passer de la Renaissance. Est-ce que nous quittons la Renaissance pour aller directement au siècle de Louis XIV ou
au XVIIe, voilà, siècle, bien sûr. Du XVe, voilà, nous passons au XVIIe.
Parfait. Alors, racontez-nous le XVIIe du point de vue objets médicaux que vous avez au musée.
Alors, le XVIIe siècle est un siècle souvent oublié, mais très riche en innovation, puisque c'est le siècle où on voit l'invention du microscope, par exemple, qui a été inventé par Leeuwenhoek, qui est un scientifique de Delphes, qui est du reste le meilleur ami de Vermeer, puisqu'il en fera son légataire universel. À l'origine, il s'agissait de faire un compte-fil pour compter les fils du tissu de soie. Il va le tester sur une goutte d'eau et d'un seul coup, il va voir plein de choses. Pour ce qui, nous, aujourd'hui encore, quand on regarde une goutte d'eau, elle est transparente, il n'y a rien, mais grâce à cet outil, il va voir plein de choses à l'intérieur de la goutte d'eau. On voit les premiers microbes. 30 ans plus tard, c'est un Anglais, Hooke, qui va faire le microscope tel qu'on le connaît avec le petit miroir qui projette une lumière et qui permet de mieux voir. C'est aussi le siècle de William Harvey qui est un Anglais, qui va découvrir, si l'on peut dire, parce que c'est, comme dit Michel Serres, découvrir ne fait que lever le voile sur quelque chose qu'on connaissait, qui, en fin de compte, met en relief la circulation sanguine avec un circuit propre, un circuit sale, où le cœur et la pompe et les reins et le foie sont des filtres. Et il définit enfin qu'il n'y a que 4 à 5 litres de sang dans un corps humain. Il va à l'encontre de la médecine grecque antique qui, elle, partait du principe que le sang était stagnant et qu'il fallait saigner, justement, pour décongestionner, et qu'on en avait 14 litres. Donc, vous comprenez qu'on a saigné à tire-larigot jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc, alors, pour continuer dans ce XVIIe siècle, on a, à partir de cette découverte, défini des objets qui s'appelaient des points de pression, qui sont des coussinets qu'on serrait sur les artères, justement pour arrêter que le corps ne se vide de son sang et surtout ne pas garrotter, qui provoquait en fin de compte la nécrose du membre. On a aussi fait les premières autogreffes de peau. À côté de cela, on a quand même la signature des choses, Signatura rerum, avec Paracelse et Jacob Böhm, qui partira du principe que si une plante ressemble à l'organe, elle le soigne. Donc si vous avez des problèmes de rein, mangez des haricots rouges. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré que ce n'était plus vrai.
Pour cela, oui, mais il y a la noix avec le cerveau et les oméga-3.
Exactement, tout à fait. C'est pour ça que j'évite maintenant de parler de la noix, parce que j'attends justement les publications qui justement, puisqu'on a découvert une molécule dans la noix qui justement pourrait prévenir Alzheimer. Au niveau de la chirurgie, il y a évidemment ce fameux XVIIe siècle, l'opération de la fistule de Louis XIV, mais beaucoup de vos auditeurs en ont certainement entendu parler, et c'est évidemment cet événement qui a peut-être fait basculer la chirurgie de l'arracheur de dents à la science. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un peu mieux considéré le chirurgien après cet événement, qui date de novembre 1686.
Alors, pour terminer notre émission, est-ce que vous allez parler peut-être d'un objet un peu curieux, un guéridon?
Oui, alors ça permet de basculer dans la modernité, c'est-à-dire après 1850. Nous avons un guéridon qui a été offert à Napoléon III par Effizio Marini en 1866, qui démontre la pétrification du corps humain. C'est-à-dire qu'il a chargé en métaux lourds cervelle, poumons, sang, pieds, oreilles. Et nous avons un superbe petit guéridon de salon orné de tous ces éléments qui fait généralement la joie de notre public américain et pas que, mais qui évidemment surprend toujours par le côté un peu gore, on va dire, mais qui a permis malgré tout de conserver des corps et de permettre la dissection et l'enseignement de l'anatomie.
Merci beaucoup. Donc, je dirais pour conclure, c'est qu'on peut tout à fait aller voir ce musée seul en le regardant ou avoir recours à vous-même en tant que guide conférencière. Je dirais que vous retrouverez peut-être, chers amis auditeurs, si vous y allez, des infirmières françaises ou de langue française, des étudiants en médecine et des médecins étrangers aussi, je crois.
Oui, nous sommes souvent visités par des étudiants américains qui finissent ou qui complètent leur cursus, leur formation de médecin avec des visites de nos musées scientifiques. Et le musée de la médecine est une étape presque obligée dans leur circuit quand il s'agit de la France. Et nous sommes très heureux de pouvoir faire découvrir nos collections.
Alors écoutez, c'est sur un petit cocorico sympathique que nous avons terminé cette émission. Merci beaucoup Béatrice Lubin. Je remercie également l'équipe technique Paolo Davi et Claude Casal. Et je signale toujours à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent réécouter sur podcast sur notre site radiograndciel.fr. Ils peuvent réécouter cette émission. À très bientôt. Au revoir.